Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Un proverbe dans la Bible, il est dit que l'homme propose et le chef dispose. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Et en fait, je vous avais expliqué une fois, quand je travaillais comme serveur au château de l'Aubrière, que dans ce château, ce n'est pas les clients qui choisissaient le menu, c'était le chef qui décidait du menu. Et mon rôle de serveur, c'était d'aller dans la cuisine, prendre ce que le chef avait préparé et d'aller le rapporter. Et en fait, le chef, notre chef Jésus, il a changé un peu le menu pour aujourd'hui. Alors, en entrée, il a préparé d'abord une exhortation, puis après il y aura un prêt de résistance. Mais je voudrais d'abord partager avec vous la parole d'exhortation. On a pu constater que ce qui n'est pas solide s'effondre. On le voit malheureusement avec beaucoup de tristesse par rapport à ce qui s'est passé à Haïti. Et je sais que Haïti, mais dans d'autres pays du monde aussi, le même constat, que souvent, parce que l'homme est tricheur, l'homme veut essayer de gagner de l'argent malhonnêtement, que souvent la qualité des bétons n'est pas ce qu'elle devrait être. On met moins de ciment, parce que c'est la partie la plus chère. Et toutes les constructions qui ont été construites avec un ciment frelaté, ben on voit que ces maisons s'écroulent. Tous les baraquements qui ont été bricolés par les hommes, elles s'écroulent. Et on voit que ce qui résiste et ce qui tient, en fait, c'est ce qui a été construit avec de la qualité. Et on peut se poser la question ce matin, c'est quoi qui fait la qualité et la robustesse d'une vie chrétienne? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? C'est quoi qui fait la qualité et la robustesse d'une vie chrétienne? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent donner la réponse, une réponse? Qu'est-ce qui fait la solidité, la qualité, la robustesse d'une vie chrétienne? Est-ce que quelqu'un qui veut proposer une réponse? L'obéissance au Seigneur. L'obéissance et la mise en pratique de sa parole. Quelqu'un d'autre? La foi. Quelqu'un d'autre? La louange. Je voudrais souligner ce matin, et si ce n'est pas le seul élément, mais c'est l'élément que je voudrais souligner, qui je pense est extrêmement important, ce qui va faire la qualité, la robustesse d'une vie chrétienne, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans l'enseignement, en disant que celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique, c'est un homme qui bâtit sa maison sur le roc. La tempête peut venir, mais cette maison est robuste, elle ne s'effondrera pas. Mais que celui qui connaît, qui entend la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique, est comme un fou qui construit sa maison sur le sable. Et je voudrais ce matin souligner, dans son livre, il y a quelques mots de John Bevere sur ce sujet-là, où il dit que la croissance spirituelle, elle n'est fonction ni du temps, c'est-à-dire combien de temps que tu es chrétien, ni du savoir, mais que la croissance spirituelle est fonction de l'obéissance. Des fois dans nos églises, on pense que la clé, c'est la connaissance des Écritures. Et je pense que c'est très important de connaître la Bible. Mais plus important que la connaissance des Écritures, c'est l'obéissance aux Écritures. Et je voudrais citer un passage de ce livre où il écrit ceci. Nous comprenons maintenant la raison pour laquelle il y a dans l'Église des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, qui sont capables de citer des versets et des chapitres de la Bible, qui ont entendu 1000 sermons et lu de nombreux livres, et qui pourtant portent toujours des couches spirituelles, comme les bébés. Il est dit dans 2 Timothée 3,7, « Ils apprennent toujours sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. » Ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité, parce qu'il ne l'applique pas. Il faut permettre à la vérité de faire son chemin dans nos vies, si nous voulons grandir et mûrir. ce n'est pas suffisant de lui donner un accord mental sans lui obéir. Je suis sûr que bien des fois, on va dire, on est d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le sermon qui a été fait. Mais ce n'est pas l'accord mental qui va faire que tu grandisses. C'est que ce que tu as entendu de la parole de Dieu, tu vas t'appliquer à le pratiquer dans ta vie quotidienne. Et je pense, quand je pense à la communauté de la Renaissance, je pense à la série qu'on a faite sur les finances. On a fait toute une série d'enseignements sur la gestion de nos finances personnelles. On a fait toute une série sur la contagion. S, saveur optimale, plus P, proximité optimale, plus C, communication optimale, égale I, impact maximal. La série qu'on est en train de faire sur l'offense. L'école biblique du mercredi soir sur la louange. Mes frères et mes sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est ça en entrée que le chef il m'a demandé de vous servir. C'est que même si tu continues d'apprendre, même si tu enchaînes série après série d'enseignements, tu ne grandiras jamais s'il n'y a pas d'obéissance à l'enseignement que tu entends. Et ce matin, le Seigneur veut te dire que ta vie ne sera vraiment solide que si tu es quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, qui ne te contente pas de l'écouter, de l'approuver avec ton intelligence, mais quelqu'un qui va vraiment la mettre en pratique. Après cette entrée, je voudrais présenter pour le plat principal. En fait, depuis quelques dimanches, j'ai commencé une série d'enseignements sur le thème de l'offense, en m'inspirant de ce livre de John Bevere, un très bon livre, « L'offense, l'arme cachée de Satan, de votre réaction dépend votre bien-être ». Et j'ai parlé dans cette série sur l'offense des pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des collègues, ceux qui sont autour de nous, qu'on va toujours avoir dans la vie des gens autour de nous qui vont nous offenser. Ça peut être des voisins, des collègues de travail. Après, j'ai parlé un autre message sur l'offense des pères, P-E, c'est accent grave. Et donc l'offense des pères, et pères c'est pas seulement les pères biologiques, mais ça peut être toute figure d'autorité qu'on a eue dans nos vies. Tout le monde en a été offensé par des pères, des gens, on les considérait vraiment comme des parents, et peut-être à un moment ou à un autre on a été blessé par eux, on a parlé de ça. Et on a parlé aussi de l'offense dans l'église, parce que malheureusement, à moins que vous soyez tout novice et tout nouveau, mais il ne faut pas être naïf, dans l'église il y aura maintes occasions pour vous d'être offensé. La première chose qui est très importante par rapport à toutes les offenses qu'on a pu subir, c'est qu'on ne peut pas établir une relation saine avec une personne, donc avec un père, P-A-I-R, ou avec un leader, un père, P et accent grave, R-E, ou avec une communauté, l'église. On ne peut pas reconstruire une relation saine quand on laisse derrière soi une relation amère et outragée. Beaucoup de gens, par exemple, dans le domaine du divorce, vont s'imaginer qu'avec quelqu'un d'autre, ça sera mieux, et laissent une ardoise qui n'est pas résolue derrière eux, une relation amère, outragée, qui n'est pas guérie, qui n'est pas réglée. Et souvent, malheureusement, les statistiques nous apprennent qu'il n'y a pas de fondation solide, et ce qui s'est vécu dans la première expérience a de fortes chances d'être répliqué dans la deuxième. Si tu as quitté une église dans l'amertume, si tu étais outragé et que tu n'as pas réglé cela, et que tu vas dans une nouvelle église, même si c'est tout beau, tout gentil aujourd'hui, un jour, l'ardoise va se représenter à toi. On ne peut pas reconstruire quelque chose de solide sans d'abord assainir ce qui est dans le passé. Et c'est très important, si vous voulez aller dans un avenir fait d'espérance et dans un présent fait d'espérance, d'être sûr de ne pas laisser traîner des ardoises derrière vous. Les gens disent ça ne sert à rien de revenir sur le passé, ça ne sert à rien de remuer les choses du passé. Si le passé n'a pas été guéri dans ton cœur, il faut revenir sur le passé pour en être libre. Dimanche dernier, j'ai parlé sur le pardon. Jésus dit, tu devais. Moi, je t'ai remis une dette énorme, tu devais toi aussi remettre la dette à celui qui te devait quelque chose. C'est indispensable. Si tu ne le fais pas, s'il y a un non-pardon dans ton cœur, que ce soit par rapport à une église, un père, un collègue, quelqu'un de la famille, Si tu laisses un non-pardon dans ton cœur, eh bien il est dit que le pardon de Dieu, tu ne pourras pas le recevoir. Parce qu'il est dit que Dieu nous pardonne comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Alors, aussi, il y a des gens qui disent, mais j'ai pardonné, mais pourtant j'ai encore mal. Des gens qui ont été vraiment offensés, qui ont fait l'acte devant Dieu, devant le prochain, de vraiment pardonner, pourtant qui souffrent. Parce que je pense que pour être vraiment libre de l'offense, il y a deux étapes. Il faut le pardon, mais il faut aussi la guérison. Et on peut, effectivement, vraiment remettre la dette à celui qui nous fait du mal. Ce n'est pas pour autant qu'automatiquement, la douleur disparaîtra. Le pardon donné doit être aussi accompagné d'une prière pour que Dieu vienne guérir notre cœur. Et je voudrais vous dire, même si on a la foi, une grande foi, on a besoin aussi. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu. Il est dit qu'il guérit les cœurs brisés. C'est dans la parole de Dieu, Dieu guérit les cœurs brisés. De pouvoir aussi laisser Dieu guérir nos blessures pour pouvoir grandir, pour pouvoir dépasser les ornières du passé et aller plus dans l'avenir que Dieu a pour nous. Ce matin, le plat de résistance que le Seigneur veut nous servir, c'est que j'aimerais revenir sur l'offense dans l'Église. Je pense que c'est un sujet très très important de parler de l'offense dans l'Église. Je suis consterné et inquiet et aussi attristé de voir le nombre de chrétiens qui ont un problème avec l'Église, qui est l'épouse du Christ. Ces chrétiens aiment Christ, mais ils ont beaucoup de mal à aimer son épouse. Ils ont beaucoup de mal. Et j'en dis, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est beaucoup plus facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas que d'aimer le frère et sœur en chair et en os qui est à côté de nous et qu'on voit. Et quand on dit ben, « c'est possible d'aimer Dieu de tout notre cœur, même si j'ai du mal à aimer mes frères et mes sœurs dans la foi », des fois il y a des gens qui pensent que c'est possible. Et Dieu dit « si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère ou les enfants de Dieu, t'es un menteur ». C'est dur, hein. Dieu dit les choses franco. Il dit « si tu n'aimes pas le frère, la sœur dans la foi que tu vois, tu ne peux pas non plus aimer Dieu que tu ne vois pas ». Et je me pose la question, pourquoi souvent il y a ce désamour vis-à-vis de l'Église, l'amour de l'époux, mais désamour vis-à-vis de l'épouse. Et souvent, c'est à cause de l'offense. C'est parce que par Jésus, on ne sera jamais blessé, il est parfait. Mais par son épouse, on peut être blessé. Et dans le cœur des chrétiens, des fois, il y a des souffrances, il y a des déceptions, il y a des frustrations qui sont présentes, liées à des choses qu'ils ont vécues dans l'Église. Donc, frères et sœurs, si ça n'a jamais été le cas pour toi, ben je pense que déjà c'est une exception, mais sans vouloir être un prophète de malheur, je peux annoncer que dans ta vie, un jour ou l'autre, tu seras aussi, tu risques d'être offensé dans le cadre de l'Église. Dans l'Église, il y a deux types d'offenses. Il y a les offenses coupables, c'est-à-dire les offenses, c'est vraiment pas bien, celui qui en est l'auteur, il est répréhensible. Et il y a les offenses non coupables. Et j'expliquerai tout à l'heure un petit peu plus ce que j'entends par là. Mais je voudrais revenir un peu sur les offenses coupables. Dans la Bible, Nouveau Testament, plusieurs fois, il nous est dit il faut se garder d'être une occasion de chute pour quiconque. Une occasion de chute, c'est-à-dire un objet de scandale. Si tu as mis sur la route de ton prochain, du frère, de la sœur en Christ, quelque chose qui est un scandale, qui bute contre et ça le fait chuter, eh bien, il est dit que c'est grave de faire ça. L'offense est vraiment là. Et il fait des exemples. On peut être un objet de scandale pour nos frères en utilisant mal la liberté que nous avons. Il prend l'exemple, certains, ils se sentaient libres de manger de la viande qui avait été sacrifiée aux idoles, ils ne se sentaient pas souillés par ça. Mais il y en a dans l'église qui avaient une conscience plus fragile, vulnérable, et que eux se sentaient souillés quand ils mangeaient de la viande qui, auparavant, d'avoir été chez le boucher, avait été sacrifiée dans le temple des idoles. Et il est dit que ceux qui se sentaient libres, en fait, au lieu de tenir compte de leurs frères plus faibles dans la foi, ils étalaient leur liberté devant tout le monde, ils crânaient devant leur liberté, disant « oui, moi je peux manger ». Et en fait, ils étaient une occasion de scandale pour les frères mal affermis. Et Paul dit « moi je pense que tous les aliments sont purs, il n'y a pas de souci. Mais d'ici, par ta liberté, est une occasion de chute pour l'autre, tu n'es plus dans l'amour ». Il parle pareil, on pourrait parler aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui pensent que boire de l'alcool c'est un péché. Qui sont dans leur conscience, ils ne peuvent pas concevoir qu'on peut être chrétien et consommer de l'alcool. Il y a des chrétiens, sans se saouler, sans parler de se saouler, parce que ça c'est un péché, mais qui se sentent libres de consommer avec modération de l'alcool. Si tu sais que, par exemple, tu vas aller chez un frère et que tu sais que lui, pour lui, ça peut être une occasion de chute, et que toi, bah, tu utilises mal ta liberté, tu étales ta liberté devant l'autre, tu vas aussi peut-être aussi être une pierre d'achoppement. Donc le Seigneur dit que dans l'Église, on doit rechercher de ne pas être un objet de scandale. Ça peut être aussi par le péché. Dans l'Église de Corinthe, il y avait un chrétien qui couchait avec sa belle-mère dans l'église. Alors imaginez, les gens du dehors pouvaient bien rigoler, ou les chrétiens qui essayaient de mener une vie sexuelle dans l'obéissance à Dieu, parce que la sexualité c'est très important, de mener une sexualité dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et là aussi, je vous ai dit, ce qui est solide, c'est ce qui est construit sur la parole de Dieu. Trop souvent, comme quand je suis pasteur, on appelle les pasteurs comme on appelle les pompiers, pour dire dans ma famille ça s'écroule, dans mon mariage ça s'écroule. Et quand on regarde, on examine, on voit que même chez des chrétiens qui sont depuis 20-30 ans dans les églises, ils ont construit leur vie sexuelle, ou ils ont construit leur mariage, mais pas du tout sur la parole de Dieu. Et ils ont bricolé quelque chose et qui ne tient pas la route, qui prend l'eau, qui fuit partout. Ce qui est solide, c'est ce qui est construit en conformité avec la parole de Dieu. Et il est dit aussi que dans l'église, si tu es dans le péché, si tu es un mauvais exemple, eh bien tu vas pouvoir aussi offenser des autres. Et là, tu sais, c'est grave. Ou alors en parole aussi. Il y a des gens dans l'église qui ont été très offensés par des paroles. Des chrétiens qui ont dit des paroles, qui ont blessé, qui ont souillé. Et là aussi, si tu as été une occasion de scandale par tes paroles, c'est une offense coupable. C'est-à-dire le Dieu ne t'approuve pas. Dieu dit que c'est pas bien. Parce que Dieu, il dit dans sa parole qu'il faut rechercher ce qui contribue à la paix. Dans l'église, il ne faut pas chercher la zizanie, la querelle. Il faut rechercher ce qui contribue à la paix et qui aide l'autre à progresser. Donc, frères et sœurs, il y a des offenses dans l'église qui sont vraiment coupables. Et ceux qui en sont les auteurs doivent vraiment se repentir. Maintenant, je voudrais parler aujourd'hui et m'attarder un peu plus sur les offenses non coupables. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que des gens se sentent offensés et vont vivre avec une offense dans leur cœur. Et pourtant, il n'y a pas un offenseur qui est vraiment coupable aux yeux de Dieu de sa parole. Et je voudrais vous lire un extrait de ce livre. Il est dit ceci. À maintes occasions, Jésus fit face aux chefs religieux de son époque et les offensa. Jésus les aimait assez pour leur dire la vérité. Écoutez ce qu'il leur dit. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. » Jésus était en train de choquer, hein, d'offenser, grave. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Mais sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par tes paroles ?» Alors est-ce qu'il était coupable, Jésus ? Il avait offensé grave les religieux. Mais Jésus a répondu, non pas je m'excuse, je suis désolé, il a dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Et il dit, John Bevere, si vous prêchez la vérité, vous offenserez les gens. Et ils seront déracinés et ils partiront. À cause de cela que les chrétiens peuvent être offensés par la vérité, nous, peut-être particulièrement les pasteurs, mais peut-être pas que les pasteurs, on peut avoir peur de confronter les gens dans l'église. Parce que si jamais il prend mal ce que je dis, je risque de le perdre, ou je lui risque de lui faire de la peine. Et c'est frappant que les ennemis de Jésus, ils lui reconnaissaient en tout cas cette qualité, ils disaient « Maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande, tu n'as pas peur de ce que pensent les autres. » Une qualité de Jésus, c'est que quand il s'agissait de la vérité, même s'il savait que la vérité allait fâcher, que la vérité allait lui faire des ennemis, allait offenser des gens, il n'avait pas peur des gens, et il disait la vérité. Il la disait avec amour, avec charité, mais il disait la vérité. Mais chaque chrétien n'est pas prêt à accueillir la vérité. Et là aussi, je voudrais vous raconter une histoire, un témoignage que j'ai lu dans ce livre, où il dit, cet auteur, « Je n'oublierai jamais la fois où j'ai prêché dans une église qui se disait remplie du Saint-Esprit. Le premier dimanche matin où j'ai prêché un message simple sur la repentance et le retour au premier amour. Et j'ai ressenti de la résistance. » Après le culte, le pasteur de cette église m'a dit, « Dieu m'avait montré ce que vous avez prêché ce matin, mais je ne crois pas que les gens de mon église soient prêts à le recevoir. » Il nous raconta qu'un tiers de son église était composé d'ultra-conservateurs qui ne voulaient aucun changement, aucune remise en question. Nous fîmes encore 4 cultes dans cette église. Chacun d'eux était plus difficile que le précédent. Quand nous avons quitté la ville, j'avais l'impression d'avoir un sac de sable dans le ventre. Habituellement, quand je quitte une église après une mission, la joie remplit mon cœur. Et quand je me suis retrouvé seul avec le Seigneur, j'ai dit, « Mais Seigneur, pourquoi ai-je ce lourd fardeau dans mon esprit ?» Et le Seigneur m'a répondu simplement, « Secoue la poussière de tes pieds. » Et il m'a montré que dans cette église, le leadership et beaucoup de chrétiens avaient rejeté sa parole qui leur était adressée. Alors moi, j'ai supplié, « Seigneur, donne-leur davantage de temps, implorai-je. » Et Jésus m'a répondu, « Même si je leur donnais encore 50 ans, ils ne changeraient pas. » Oui, dans l'église, on peut être offensé par la vérité. Et un jour, peut-être, ça t'arrivera d'être offensé par la vérité. Mais là, il n'y a pas de gens à blâmer, parce que l'église est un lieu où on doit proclamer la vérité. Et c'est vrai que cette histoire est triste, mais que même en étant chrétien, on n'est pas forcément prêt à changer. Malgré tous les sermons que tu as pu entendre, tous les messagers que Dieu t'a envoyés, il y a des choses, tu les sais, tu les recèles, tu les sais par cœur, mais tu n'as jamais obéi. Alors j'espère ce matin que ce n'est pas toi qui m'écoutes ce matin, que Dieu dit, secoue la poussière de tes pieds, parce que cette personne a décidé dans son cœur qu'elle ne changerait pas, qu'elle ne s'alignerait pas. Donc dans l'église, il y a des chrétiens qui peuvent être offensés par la vérité. Deuxième chose, c'est que dans l'église, il peut y avoir aussi des chrétiens offensés parce qu'on ne fait pas tous leurs caprices. Dans l'église, il y a des chrétiens offensés parce qu'on ne fait pas tous leurs caprices. Et là aussi, je voudrais lire un témoignage. Si souvent, écrit John Bevere, les pasteurs sont sous le contrôle des gens, ils pensent qu'ils doivent faire tout ce que les gens leur demandent. Un administrateur d'une église, donc une église qui venait de perdre son pasteur, m'a dit un jour, « Nous voulons un pasteur qui satisfasse à tous nos besoins et qui viendra chez moi tous les matins à 8h prendre le café. » J'ai pensé, donc c'est l'auteur qui parle, « Vous trouverez un mondain que vous pourrez contrôler, mais pas un homme contrôlé par le Saint-Esprit. » J'appris plus tard que cette église avait vu passer 4 pasteurs en 18 mois. Quand j'étais pasteur auprès des jeunes, un jeune homme est venu vers moi après 6 mois d'exercice dans mon ministère. Et il m'a dit, est-ce que tu veux être mon copain ? Mon dernier pasteur auprès des jeunes était mon copain. Alors je lui ai cité Matthieu 10, verset 41, où Jésus dit, qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Je lui ai dit, tu as beaucoup de copains, n'est-ce pas ? Oui, il m'a dit. Mais tu n'as qu'un pasteur de jeunesse, n'est-ce pas ? Oui, répondit-il. Alors, veux-tu une récompense de pasteur ou une récompense de copain ? Il a réfléchi un peu, puis il a compris, il a dit, je veux la récompense d'un pasteur. C'est-à-dire recevoir celui que Dieu m'envoie pour le ministère qu'il m'envoie, pas simplement satisfaire peut-être mes envies ou mes caprices. Beaucoup de pasteurs ont peur que s'ils ne satisfont pas les caprices des gens, ils vont les blesser. Et ils sont contrôlés par leurs propres membres plutôt que contrôlés par Dieu. Il y a des gens offensés par la vérité dans les églises. Il y a des gens offensés parce qu'on ne fait pas tous leurs caprices. Il y a des gens aussi, troisièmement, offensés parce qu'on ne va pas répondre à toutes leurs attentes. Et je pense que ça, c'est un point très très important. Je suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus au CDLR parce que, en fait, il y a certaines attentes qu'ils avaient par rapport à l'église ou au pasteur qui n'ont pas été satisfaites. Et ces attentes non satisfaites ont été pour eux une occasion de chute. Et là, je voudrais aussi vous lire quelques points parce que ça me paraît vraiment pertinent. Il est dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Or, quand Jésus apprit que Lazare, son ami, était malade, il est écrit qu'il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et quand il arriva, Jésus, enfin à Béthanie, Lazare était mort. Marthe et Marie lui dirent chacune, « Mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En d'autres termes, « Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite ? Tu aurais pu le sauver. » Il est plus que probable que les deux sœurs étaient offensées par le retard de Jésus. Elles avaient envoyé un message à temps pour lui dire « Ton ami est mourant ». Et lui, Jésus, il attend encore 2 jours. Il n'a pas réagi comme les sœurs l'attendaient. Il n'a pas tout laissé tomber. Au lieu de cela, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, même s'il y avait une demande ou une attente pressante. Sur le moment, Jésus donnait l'impression d'être apathique, comme s'il s'en fichait de ce drame qui se passait là-bas à Béthanie. Si souvent, les pasteurs sont sous le contrôle des gens, de la même manière. Et je vais lire un autre témoignage qui m'a aussi fait réfléchir. Il est dit dans l'Évangile qu'un jour, Jean, le prophète qui a préparé la venue du Messie, appela 2 de ses disciples et il les envoya vers le Seigneur pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Je ne sais pas si vous imaginez ces gens qui envoient ses disciples poser cette question à Jésus. On se dit « Mais attends, minute. Pourquoi Jean demande-t-il à Jésus s'il est celui qui doit venir, s'il est le Messie ?» C'est Jean qui a préparé le chemin du Messie. C'est Jean qui a annoncé sa venue et quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu » qui ôte le péché du monde. Alors pourquoi il est tout d'un coup en train de demander « Es-tu le Messie ?» ou « Devons-nous en attendre un autre ?» Mettez-vous à sa place. Vous avez été l'homme à la pointe de ce que Dieu a fait. Des foules de gens ont reçu votre ministère. Vous avez vécu une vie d'abnégation. Vous ne vous êtes même pas marié afin d'assurer au maximum le plein potentiel de votre appel. Vous avez vécu dans le désert mangeant des sauterelles et du miel sauvage. Vous avez souvent jeûné et votre vie entière a été consacrée à préparer la voie de ce Messie. Et vous êtes maintenant en prison. Cela fait déjà pas mal de temps que vous êtes enfermé entre 4 murs. Très peu de gens viennent vous rendre visite car maintenant toute leur attention se tourne vers Jésus de Nazareth. Et même vos disciples ont rejoint cet homme. Seuls quelques-uns restent pour vous servir. Et quand ces quelques-uns viennent vous voir, ils vous apportent des histoires selon lesquelles cet homme, Jésus, et ses disciples, mènent une vie très différente de la vôtre. Ils mangent, ils boivent avec des péagers, des pêcheurs, ils font la fête. Ils n'observent pas le sabbat, ils ne jeûnent même pas. Et vous, vous vous dites, mais j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, sous la forme d'une colombe, mais est-ce que c'est là le comportement d'un Messie? Et plus votre séjour en prison s'allonge, plus la tentation d'être scandalisé augmente. Cet homme pour lequel j'ai consacré ma vie à lui ouvrir la voie, il n'est même pas venu me rendre visite en prison. S'il est le Messie, pourquoi il ne vient pas me sortir de là? Je n'ai fait aucun mal. Alors vous envoyez deux de vos fidèles interroger Jésus, es-tu vraiment celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On peut traduire heureux celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. Et ce qu'il disait Jésus, c'est Jean, je sais que tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu ne comprends pas beaucoup de mes façons d'agir, mais ne sois pas offensé à cause de moi ou contre moi, parce que je n'opère pas comme toi tu t'y attendais. Jésus exhorte Jean à ne pas juger. Des attentes vis-à-vis d'un pasteur, des attentes vis-à-vis d'une église. Et on ne va pas toujours comprendre, on ne va pas toujours savoir. Et des fois le mieux c'est de ne pas juger, c'est de faire confiance. Et de savoir aussi que un serviteur de Dieu est toujours limité, mais aussi qu'il n'est pas envoyé par Dieu pour forcément satisfaire toutes nos attentes, mais il est là pour faire l'œuvre que Dieu lui a confiée. Et je voudrais dire aussi, ici, en parlant aussi de l'offense dans l'Église, offensé par la vérité, offensé parce qu'on ne fait pas tous nos caprices, offensé parce qu'on ne répond pas à toutes nos attentes, que Jésus aussi est quelqu'un qui a offensé sa famille. Mais dans certaines cultures, c'est très mal vu d'offenser sa famille. Ça ne se fait pas. Je parle de ça pour dire qu'il y a certaines offenses qui ne sont pas coupables, qu'on voit même dans la vie de Jésus. Un jour, la famille, quand ils ont appris que Jésus, toutes les foules l'entouraient, qu'il ne le laissait même pas manger, ils ont dit, Jésus, il disjoncte, ça ne va pas, il faut aller le protéger, il faut le tirer de là. Et il est dit que sa mère et ses frères et sœurs sont venus en disant il a perdu la raison. On lit ça dans Marc chapitre 3 verset 21. Et ce qu'on voit Jésus, c'est qu'il a même été rejeté par ceux qui étaient le plus proches de lui, par la famille de sang. Parce qu'il ne cherchait pas l'approbation de sa maisonnée. Il ne voulait pas être contrôlé par les membres de sa famille. Il voulait accomplir le plan du Père, qu'il soit approuvé par sa mère, par ses frères et sœurs ou pas. Et c'est vrai qu'au début, la mère et les frères de Jésus ont été choqués, offensés par lui. Mais finalement, parce que Jésus était conduit de manière juste, ils ont été tous sauvés. Et dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, Jacques, le demi-frère de Jésus, est devenu l'apôtre de l'église de Jérusalem. Si tu es un disciple de Jésus et que tu veux à tout prix faire plaisir aux membres de ta famille, c'est avant toute chose, tu ne veux pas les offenser, tu risques de compromettre ta vie de disciple. Et si tu compromets ta vie de disciple par peur d'offenser les tiens, tu vas perdre l'huile fraîche dans ta vie et tu empêcheras les tiens d'être pleinement libérés. Donc frères et sœurs, il y a des offenses dans l'Église qui sont coupables et que nous voulons vraiment ne pas voir et combattre. Il y a des offenses dans l'Église où il n'y a pas de culpabilité. Elles sont là. Mais c'est peut-être moi qui me sens offensé sans forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit à blâmer. En résumé, pour clôturer, je voudrais lier la gerbe. Il y a des offenses qui sont des scandales, je vous l'ai dit. Si l'un de nous est responsable de la chute d'un de ces petits qui croient en Christ, c'est grave. Je prie mon frère, ma sœur, que tu ne sois pas un objet de scandale dans l'Église. Si tu devais faire chuter un de ces petits qui croient, il est dit qu'il vaudrait mieux qu'on t'attache une pierre au cou et qu'on te jette dans la mer, plutôt que tu scandalises un de ses frères et sœurs en la foi. Et si il t'est arrivé d'être une occasion de chute, tu as besoin de te repentir. Mais pas dire, oh, je me repens, pardon, et puis tu recommences, parce qu'on a l'impression que tu ne te repens pas. C'est du blabla ton repentir. Il n'y a pas de tristesse, de regret profond, désir de te détourner. Si tu as été une occasion de chute, tu dois te repentir sincèrement. Et si tu n'as pas de tristesse, tu es encore en train de te justifier, c'est que tu n'as pas été visité par la repentance. Il faut que tu pries Dieu. Après, si vous avez été victime d'une offense coupable dans l'Église, et vous êtes l'offensé, vous avez besoin de pardonner. Tu devais pardonner, pas simplement les gens de l'extérieur. L'endroit le plus difficile, peut-être, on a besoin de donner le pardon, c'est avec les gens qu'on côtoie le plus souvent. Tu dois pardonner le frère et la sœur qui t'a offensé de manière coupable. Et tu dois rechercher la guérison, parce que des fois, l'offense a pu être tellement grave qu'on est cassé, qu'on est vraiment blessé. Et même si on pardonne, il faut demander à Jésus de venir guérir notre cœur. Il y a aussi, on a vu dans l'Église, des offenses imaginaires. Moi, je vous promets, dans le couple, ça se passe, dans l'Église, ça se passe, qu'une personne, elle est vraiment offensée. Et puis que, quand on creuse, mais elle fait imaginer des choses, mais qui n'ont jamais eu lieu. On peut lui dire, mon frère, ma soeur, mais tu t'es fait un film. Ton offense, c'est un film monté de toutes pièces par Hollywood. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu perçois. Et je vous promets qu'il y a des gens offensés, mais graves, de manière imaginaire. Imaginez. C'est pour ça que c'est important, avant de te sentir vraiment offensé, d'accueillir ça, ou de dire que c'est la vérité, d'abord peut-être tu as les mauvaises informations, parce que j'ai vu que l'offense, souvent elle se divulgue par les rumeurs, par le commérage, par le bavardage. Ah, un tel, il a dit ceci, le pasteur, il a dit ceci, et toi, tu prends ça pour argent comptant, et tu es blessé comme tout, et quand 10 mois après que tu as bien nourri ton offense, tu vas voir la personne, tu t'aperçois que la personne n'a jamais dit ça. Tu vérifies, tu vois que la personne n'a jamais dit ça. C'est pour ça, dans la Bible, il est dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, c'est-à-dire contre un responsable d'église, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que tu risques de te laisser offenser par quelque chose qui t'est rapporté, mais qui peut-être a été déformé ou qui n'est pas complet. Et des fois, même si la chose qui est rapportée s'est passée, la lecture que tu fais n'est pas bonne. Moi, je vois qu'il y a des gens qui lisent de travers les choses. Parce que souvent, on est dans le rejet. Et quelqu'un qui est dans le rejet, il va avoir le rejet partout. Si tu es pressé, que tu es avec un souci, tu le croises pour aller à l'église, il est là devant toi, et que tu ne le salues pas. Et lui, il va peut-être imaginer, voilà, il m'en veut, il a quelque chose contre moi. Et peut-être, en fait, simplement, il était pressé, il ne t'a pas vu. Mais toi, tu es tellement dans le rejet que tu te sens tellement offensé. Donc là aussi, c'est important de réfléchir à cela. On a vu après, donc, offensé par des demandes non satisfaites. Et moi, je dirais, toi qui m'entends, tu es effectivement offensé parce que tu avais des attentes qui ont été déçues, je t'invite à examiner tes attentes. Peut-être tes attentes étaient irréalistes. Il y a des gens dans le couple, ils me disent je suis offensé par mon conjoint, parce que je m'aperçois que mon conjoint il a des défauts. Ben, je veux dire, il serait temps que tu deviennes réaliste. Bien sûr qu'il a des défauts, même la personne la plus formidable, elle a des défauts. Il y a des gens, ils viennent dans l'église, ils ne sont pas réalistes. Ils pensent qu'ils ont joint une armée d'anges, même si on ne voit pas nos ailes. Et tout d'un coup, la réalité les rattrape. Ils s'aperçoivent que ben non, ce n'est pas des anges. On ne justifie pas par ce discours. On doit rechercher la sanctification, on doit chercher à être parfait comme le Père Céleste est parfait. Mais peut-être tu es déçu parce que tu n'es pas réaliste. Ou parce que peut-être même tu es idolâtre. Idolâtre, c'est-à-dire mettre tellement haut sur un piédestal une église ou un pasteur qu'un jour tu vas tomber grave de ton piédestal. Parce que tu attends tellement de cette personne, tu penses tellement qu'elle est super, parfaite, etc. Cette église, ah ben, je ne sais pas combien de temps ta rêverie va durer, mais un jour, tu vas t'apercevoir que tu avais idolâtré cette personne. La seule qu'on peut élever au-dessus de tout et qu'on ne sera jamais déçu, c'est Jésus. Toutes les autres personnes, un jour ou l'autre. Examine ton besoin. Peut-être t'étais pas réaliste, t'étais idolâtre. Peut-être t'étais capricieux, ça existe. Il n'y a pas que les enfants capricieux. Les enfants de Dieu capricieux, ça existe. S'ils n'ont pas l'oyoyo, s'ils n'ont pas la chose tout de suite. Ah ouais. S'ils n'ont pas leur visite quand ils ont téléphoné dans la semaine qui suit. Mais aussi, des fois, j'ai remarqué que quand on est aussi offensé, c'est aussi parce que des fois on est aveugle. Moi, j'ai vu des personnes qui disaient, par exemple, moi je ne me sens pas aimé par ce leader ou ce responsable. Et qu'ils ne savaient pas, ils ne le savaient pas, mais moi je savais que cette personne, elle priait tous les jours pour cette personne-là. Elle agonisait dans la prière pour cette personne. Elle portait le fardeau de cette personne. Et après, c'est facile de dire, elle ne m'aime pas. Mais tu sais qu'une partie des choses. Souvent, tu vas te faire une opinion qu'avec une partie des éléments. Si tu savais tout, tu changerais ton diagnostic. Tu changerais ton opinion. Et puis, on a vu donc l'offense à cause de la vérité. Et souvent, c'est notre orgueil. L'orgueil existe chez les chrétiens dans leur chair. Et l'orgueil se blesse facilement, très facilement. Si tu examines des fois dans l'offense que tu as pu vivre à l'église, c'est quoi qui est le plus offensé? Peut-être tu verras que c'est ton orgueil. Ou des fois c'est notre rébellion. Ah, il m'agace, il m'énerve. Je ne le ferai pas. De toute façon, il peut me le dire 10 fois, il peut prêcher 100 fois là-dessus. Finalement, on est offensé par notre rébellion, notre résistance. Alors ce message ce matin, sur l'offense dans l'église, j'ai trouvé que c'était important de l'apporter pour compléter le premier qui était donné sur l'offense dans l'église. Je voudrais vous demander un moment de peut-être poser ce que vous avez dans les mains, fermer vos yeux, rester assis. Seigneur, ce matin nous prions. Comme le dit ce chant d'Exo, tu as voulu tes enfants unis, qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous t'apportons toutes les divisions dans ton corps causées par l'offense, l'offense coupable ou l'offense non coupable, mais même s'il n'est pas coupable, qui est ressenti comme une offense et qui a les effets d'une offense. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, dans la foi, que ces enseignements que nous avons entendus ne reviennent pas à toi sans avoir produit ce pourquoi tu les as envoyés. Je prie dans le nom de Jésus pour nous qui étions là ce matin, pour ceux qui entendront ces messages où qu'ils se trouvent, que tu parles à leur cœur, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que si nous avons été une occasion de chute, pour l'un de ces petits qui croient en toi, nous puissions avoir l'humilité de le reconnaître, la tristesse d'une vraie repentir, et que nous puissions nous humilier devant toi et devant ceux que nous avons offensés. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux, peut-être, qui ont un désamour avec l'Église ou qui ont pris le large par rapport à l'Église à cause d'offenses et qui en sont prisonniers. Je prie pour eux dans le nom de Jésus, même s'ils ne retournent pas dans l'Église où peut-être les choses se sont passées. Que, Seigneur, ce qu'ils ont laissé derrière l'ardoise soit réglé, soit assaini. Qu'ils ne puissent pas se réinvestir dans de nouvelles relations, dans de nouvelles enracinements, en laissant derrière eux des impayés, Seigneur. Je prie là aussi que, Seigneur, tu amènes la paix pour libérer l'avenir fait d'espérance. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que, Seigneur, ton appel soit si fort que nous ne puissions pas résister, endurcir notre cœur, et que tu doives secouer la poussière des pieds, Seigneur. Parce que tu es venu maintes fois, mais nous ne l'avons pas voulu. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Oh Jésus, nous te prions, Seigneur, ce matin. Touche ce matin nos cœurs, Seigneur. Touche les cœurs des bien-aimés qui sont ici ce matin. Touche, Seigneur, leur volonté, touche leur esprit. Je te demande de venir sanctifier ton Église. Je te demande, Père, d'agir dans le nom de Jésus ce matin. Viens, Esprit du Dieu vivant, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Libère-nous, Seigneur, de ce piège de l'offense. Donne-nous de vivre dans le pardon, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur.